tout le temps.
Check this out.
À Québec.
Québec.
C'est toujours.
Toujours.
Choix. 98.1.
Choix.
Choix.
Turn it up.
Radio X. L'original. Marceau. Le soir. Avec Marceau. Marceau.
Radio X.
Jusqu'à 22h, on a le plaisir d'être avec la gang de Truck Stop Québec. Benoît Terrien à sa tête. Salut mon ami.
Salut Marceau, comment ça va?
Ça va très bien. Truck Stop Québec, pour les gens qui t'entendent pour la première fois, ta belle voix à trois gosses, c'est quoi exactement?
À trois gosses.
Salut.
Salut.
Mon nom c'est Benoît Terrien.
Non, c'est Jordan.
Jordan?
Ouais.
Ouais. C'est vrai que Jordan aussi, hein?
Je sais pas pourquoi que la voix sort comme ça ici.
C'est un trois testicules, Jordan. Je pense que c'est les compresseurs.
C'est les compresseurs.
Ouais. Ouais.
Fait que toi, t'as déjà une grosse voix d'avance, là, puis nous autres, on a des petites voix, fait que ça nous aide un peu avec les compresseurs.
En fait, Truck Stop Québec, c'est un média pour l'industrie du camionnage au Québec.
Ouais.
On poste des emplois, on donne de l'information, on divertit les gens avec des vidéos.
On fait de la radio.
On fait de la radio de 4 à 6 tous les jours, du lundi au jeudi, en direct. Et puis après ça, ben podcast.
T'as ça depuis combien de temps?
Depuis 2007, exactement. Puis j'étais camionneur avant. À un moment donné, on est tombé sur la radio satellite avec Jeff.
Ouais.
Puis après ça, ben ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. C'est une histoire qui a jamais cessé d'avancer.
C'est une belle histoire. Vous avez rendu combien d'employés?
Huit.
Huit?
Oui.
Ça roule tempête.
Ça roule au fond.
C'est
qui est bizarre. Puis tu sais, il y a certainement un manque là-dedans qui était visible dans l'industrie. Ouais. Un manque peut-être. Puis... à force peut-être d'intégrer à la plateforme qu'on a toutes sortes d'outils pour l'industrie du transport, ça a fait qu'on est devenu comme incontournable.
Ben oui. C'est un beau succès, Truck Stop Québec. On en entend souvent parler. Puis à chacun de vos passages, ben c'est très apprécié. Je m'excuse pour la chaise. Je pense que...
a besoin de quelque chose.
C'est pas pour rien que les animateurs ici de jour sont tous sur le keto pis ces affaires-là. Hein. C'est comme...
Tu as pris du poids?
Non, c'est les animateurs de jour. Là.
Moi, je pense que c'est ton suit de plongée sous-marine qui dégoûte sa chaise.
Oui.
Puis, à un moment donné, ça se couille.
Hey, t'avais-tu des chums à 15 qui se sont fait prendre, toi?
Dans le carambolage, non. Mais écoute, c'est sûr que quand tu regardes ça, hein, l'industrie du camionnage, on se fait tout le temps tabasser quand il y a des carambolages ou quand il y a des accidents puis qu'on monte un camion.
C'est votre faute, là?
Ben, c'est parce qu'on cherche toujours à qui la faute, hein? Puis dans l'industrie, on se dit le plus gros devrait être l'exemple, mais on n'est pas à l'abri de ça. De la glace, ça restera de la glace.
Ben, oui.
Puis si ça freine devant moi, je suis un camionneur, puis je pèse, je sais pas, 80 000 livres total, je peux pas briquer sur un 10 sous.
Non.
Puis même si je prends toutes les précautions du monde, ben monsieur et madame, tout le monde ne comprennent pas ça, puis ils vont venir se stationner devant moi ou ils vont venir me couper à 10 pieds en avant du camion. Puis là, ben comment que je serais à 2 pieds sur le frein? Je peux pas freiner.
Toi, est-ce que tu es déjà passé sur la 15?
Ou souvent.
Puis est-ce que tu as déjà remarqué que c'était un problème, le vent, puis les blizzards qui pouvaient s'amener une fois de temps en temps? Puis pour les gens qui savent pas, c'est quoi des blizzards? Là, en anglais, c'est whiteout. C'est comme un mur blanc qui arrive, puis tu vois même pas à 3 pieds de ta voiture. C'est comme si tu avais un banc de neige sur le dessus de ta voiture, puis... c'était impossible de voir. Là.
Ben exactement, parce que c'est arrivé, oui, effectivement, que là, ils vendent.
Ouais.
Puis il y a d'autres tronçons de route. La 40 en est un. Même ici, dans le coin de Saint-Augustin, il y a souvent des wipe-out comme ça.
Wide-out.
Wide-out, en tout cas. Puis sur la 20 aussi, ça arrive souvent. Puis si les gens connaissent un petit peu la 81 dans le secteur de Syracuse ou Watertown, on a aussi des lake effect là-bas, des fois qui se transportent jusque sur la 401. Puis écoute, c'est un mur blanc, tu vois pas 100 pieds en avant de toi.
Mais c'était-tu rassuré quand t'as entendu Bonardel dire non, c'est pas un secteur où il y a énormément d'accidents, on regarde les statistiques puis ça semble pas il semble pas y avoir de problème, et le lendemain il s'est levé en disant j'ai la solution, on va mettre une affiche.
Ouais.
Attention, possibilité de blizzard.
Sa même proposition.
Le vent, à ta connaissance, je sais que toi et moi, tu sais, on est des gens qui étudient longtemps.
Ouais.
Le vent, à ta connaissance, là, est-ce que c'est lire?
Pantoute.
OK. Fait que la pancarte, ça devrait pas changer grand-chose. Le vent devrait continuer d'être 115, puis il devrait continuer de ramasser la neige, puis de l'envoyer 115.
Ça changera rien.
C'est particulier que ce gars-là soit le grand responsable de nos routes, là, avec une solution de cette façon-là.
Mais M. Bonardel avait proposé sur la 40 dans le secteur de Saint-Sulpice l'année dernière quand il est arrivé un carambolage. Dire, on va aller planter des arbres cet été puis on va rendre ça t'sais, moins venteux. Il devait savoir à un moment donné que le vent, ben avec des arbres, ça finirait par arrêter.
Mm-hmm.
À certains tronçons d'autoroute ailleurs, que ce soit en Ontario, aux États-Unis, on va mettre des espèces de grandes clôtures pour essayer de freiner le vent puis la neige pour que ça reste là. Ça aide un peu, mais en tout cas, j'ai pas vu d'arbres sur le bord de la 40. Puis l'affiche, comment qu'elle va être écrite en 22 couleurs, ça arrêtera pas en neige puis le vent de passer.
Non, mais tu sais, attention, possibilité de blizzard, attention, possibilité de whiteout, je veux dire... Mettons que t'es sur l'autoroute puis tu vois l'affiche là puis tu roules, tu fais quoi là? Je veux dire, tu sais pas.
Il est probablement déjà trop tard même.
Ben oui, il est probablement trop tard.
Puis,
je suis d'accord avec toi que mettre des arbres a été une excellente réponse à donner le lendemain quand c'est arrivé. Je veux dire, c'est quand même 200 véhicules impliqués, 160 personnes qui ont été prises par les services de santé, deux morts. Le lendemain, sa meilleure solution, ouais, c'est une pancarte. Yeah.
Encore plus niaiseux que ça, il y a un auditeur qui, lorsqu'on en parlait de ça en ondes, a mentionné qu'à Kakuna, ils ont recyclé des vieilles planches de bois dans un secteur qui était problématique, puis que ça faisait super bien la job.
Oui.
Mais comme Yannick le dit, du recyclage, ça coûte pas assez cher, donc...
Il n'y a pas de solution miracle, mais moi, je pense que si on mettait temporairement des clôtures à l'automne, des clôtures en espèce de plastique rouge, là, puis le vent passe, mais la neige reste poignée dedans, on réglerait peut-être une partie du problème. Sinon, ben plantation d'arbres, des arbres comme des pins, des sapins et tout ça, ça bloque le vent bien en masse.
Il y a un auditeur qui m'avait suggéré quelque chose. T'sais, on se cherche des endroits, des fois, pour entreposer de la neige. Puis à cet endroit-là, il y a de la place pour entreposer de la neige. Donc, faire des grosses montagnes pour faire dévier le vent par en haut. Fait que comme ça, en bas, t'es correct. Tu peux circuler sans aucun problème. T'es à l'abri du vent. Ce secteur-là, ça aurait pu être une stratégie à faire pendant quelques temps, le temps que les arbres puissent pousser puis bien prendre pour faire le travail. Là.
Demain, ça va être journée de tempête à peu près partout au Québec.
Ouais.
Ben là, vous le savez. Dans ces secteurs-là, soit que vous mettez vos quatre flashers en bon français, ou vous ralentissez, ou en tout cas, essayez de pas être pris d'un carambolage quelque part demain. Puis d'après moi, j'ai pas de boule de cristal, mais d'après moi, on va entendre un carambolage quelque part demain à cause des vents puis à cause de la visibilité.
Tu nous as déjà amené des entrepreneurs qui sont responsables de plusieurs flottes de camions qui se sont présentés ici, puis il y en a un qui dit non, moi régulièrement je ferme là quand il y a une tempête, je mets pas mes chauffeurs en danger, je mets pas les automobilistes en danger. Je les appelle puis je leur dis range-toi là puis garde, on reprendra demain.
Oui.
C'est rassurant ça, de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent ce genre de décision là.
Puis de plus en plus dans l'industrie, on l'apprend la décision, ce qu'on prenait pas il y a peut-être 15 ans, 20 ans, parce qu'il y avait une pression des clients qui, eux, voulaient le stock beau temps, mauvais temps. Puis les chaînes de montage, c'est dur à expliquer aux employés que l'avant n'arrivera pas à cause que, bon, il y a une tempête, puis l'entreprise a décidé que c'était plus sécuritaire de garder les camions au terminal. On dirait que c'est difficile d'expliquer ça des fois à des employés, mais en tout cas, de plus en plus dans l'industrie, je pense qu'on est conscient de ça.
Mais en même temps, pour le chauffeur Ben qui reçoit le téléphone de son boss, tu sais, le chauffeur a dit, t'as pas de mon boss, il prend soin de moi quand même. C'est pas rassurant pour aucun camionneur de se poser des questions constamment, à savoir, ma remorque va-tu essayer de me dépasser à un moment donné?
Ouais. Puis, mettons que je laisse partir un employé dans tempête demain et qui a, je sais pas, au moins 3 ou 4 livraisons dans sa remorque, puis qu'après la première, il est plus capable, il reste pogné partout. Il y a des coûts à une entreprise pour opérer ça, d'aller payer quelqu'un qui va sortir le camion de la cour. Puis là, ben les autres clients, t'es parti le matin. Donc, ça se peut que dans le système informatique, que ça dit votre livraison est en cours. Puis là, ben on attend le stock, mais rendu à 4 heures, visiblement, le stock arrivera pas parce que t'es pogné dans toutes les cours. C'est bien plus de troubles. Tu risques de perdre bien plus d'employés. Là, ben restez chez vous, puis... Advienne que pourra. Demain, c'est un autre jour. Puis le lendemain, les livraisons se feront pareil.
T'es camionneur, là. Ils te parlent-tu du déneigement?
Souvent.
Une fois de temps en temps?
Souvent.
Puis ont-tu l'impression que c'est pire qu'avant? Parce que, tu sais, on va se le dire, on mettra pas la faute sur les gars qui travaillent dans le déneigement. Les autres, ils essaient de faire leur possible. Là. Mais toi, avec l'expérience que t'as, puis l'expérience des camionneurs, ils te le disent-tu qu'on dirait que depuis quelques années, le déneigement sur les autoroutes, c'est plus comme c'était?
Moi, j'ai l'impression qu'on a coupé dans les abrasifs.
Ouais.
Puis le déneigement peut-être des fois tarder à débuter. Puis c'est pas de la faute des gars et des filles qui conduisent ces camions-là, tout ça. Peut-être que il y a un souci d'économie. Si je pars 25 camions une demi-heure plus tard, ben c'est une économie, là. Parce que si je payais à contrat tout l'hiver, puis que je sauve une demi-heure de temps sur le lot d'employés, ben c'est des sous de plus pour l'entreprise.
Il faut pas oublier que nos routes ont été bâties sur le plus bas soumissionnaire.
Tout le temps.
Le déneigeur qui est choisi à cet endroit-là, c'est le plus bas soumissionnaire aussi. C'est un entrepreneur, puis lui, ben il veut pas manger d'argent.
Effectivement.
Il veut en faire, fait qu'il va essayer de couper à certains endroits. Puis là, je comprends qu'il y a des inspecteurs de Transport Québec qui vont vérifier une fois de temps en temps, savoir si la job est faite.
Oui.
Ils peuvent pas vérifier à grandeur, savoir si tout est fait. Là.
C'est impossible, mais au Québec, le déneigement est fait par la catégorie de route. En fait, les autoroutes sont déneigées là, t'sais, le plus top shape possible. Les routes secondaires, pour certaines, sont numérotées en fonction des secteurs qui traversent. Et puis, s'il y a des véhicules d'urgence qui doivent circuler, il faut que ça soit au moins déblayé un peu plus souvent. Puis, les rangs de campagne, ben, c'est déneigé quand on passera, là, t'sais, nécessairement. Puis, jusqu'à temps qu'il y ait une bonne accumulation. Mais moi, je pense que dans les grandes villes aujourd'hui, un peu partout en périphérie, on dirait qu'on a... En tout cas, ça coûte cher du calcium, là.
Mm-hmm.
Puis on dirait qu'on en met moins. Le déneigement, ben c'est une question d'opération. On est tout en pénurie, là. Que ce soit des camionneurs, ben des déneigeurs aussi, on va manquer de gens pour chauffer les machines. Puis des fois, rendu à ce moment-ci de l'année, ben le staff qu'on avait dans l'hiver, ben, il s'est retrouvé une job ailleurs. Là, on perd un opérateur. Puis trouver un opérateur à ce moment-ci de l'année sans y garantir énormément d'heures pour la fin de la période.
Un fiable
qui connaît ça et qui ne droppera pas à un kilomètre toute la cargaison d'abrasifs qu'il y a dans la boîte en arrière, qui a un coût à ça aussi, ben c'est difficile pour eux autres. Puis c'est difficile. Un entrepreneur en déneigement aujourd'hui, qu'il soit résidentiel, qu'il soit sur la route, qu'il soit commercial, il vit avec les mêmes conséquences ou pénuries que notre industrie. Puis de trouver du monde fiable, là, c'est difficile en 2020.
Dernière question avant de passer à nos invités, Ben. T'as-tu entendu parler de notre camionneur en formation qui se promène en chaise roulante?
J'ai parlé hier.
Ouais, ça va-tu
Simon Demel.
Oui.
Finalement, Simon a eu des bonnes nouvelles. Il a essayé ce qu'on appelle le kit de... En fait, pour... adapter un camion, parce que Simon Desmeules est paraplégique, un accident de VTT il y a quelques années, donc lui empêche de marcher, il est en fauteuil roulant. Mais il a décidé, il dit, moi, je me ferai pas vivre par la société, donc je m'en vais camionneur.
Tout à son honneur.
C'est un beau défi, en mode.
Vraiment.
On lui a coupé l'aide sociale parce qu'il vivait avec sa conjointe. Fait qu'on lui a dit, ben, à cette heure, veille que ta conjointe soit au crochet de ta conjointe. Là, il y a une subvention d'Emploi Québec qui est probablement une couple de piastres pour payer le gaz, c'est à peu près tout. Là, tout est fait. Le centre a fait un test avec lui, avec les ingénieurs de l'espèce de kit pour l'aider à conduire, parce qu'il n'y aura pas de pédale, naturellement, tout va se faire manuellement. Puis là, ce qui reste actuellement, ce qu'il m'a dit hier, c'est que la SAC, il y a un ingénieur à la SAC qui doit juste signer les documents comme quoi qu'ils approuvent.
Ben lui, il est dans le jus, là. T'as pas idée.
Ben là, je me demande, écoute, c'est parce que on dit toujours, ben dans d'ici une semaine, on devrait avoir des nouvelles.
Ouais.
Le centre dit, ben, on attend des nouvelles, mais il y a rien qui bouge. Est-ce que le monsieur de la SAC écoute le...
T'as-tu le nom de l'ingénieur?
Non, j'ai pas le nom. J'ai demandé hier, il dit, je le sais pas par cœur, il était pas en mesure de me le donner. Parce que j'aurais aimé ça peut-être lui demander personnellement ce soir.
Ouais.
S'il écoute Radio X, Simon Desmeules doit avoir atterri sur son bureau, dossier, quelque chose. C'est sûr qu'il va se reconnaître. Demain, signez donc le document. Ce petit bonhomme-là veut être camionneur. Il y a des compagnies qui veulent l'embaucher. Faites-lui pas perdre son temps. Ça coûte cher. Ben là, on va y donner une chance. Il y a peut-être comme 2 mois de pratique à faire après ça. C'est réglé. Il y a une classe 1. Il peut aller gagner sa vie puis plus être au crochet de l'État.
On se comprend. Les ingénieurs, c'est des gens très, très, très importants. La Société d'assurance automobile du Québec sont très, très, très occupés. Mais comment ils font pour dormir en sachant qu'il y a un gars qui, à toutes les heures, à tous les jours, souhaite qu'il signe son maudit papier pour qu'il puisse aller sur le marché du travail? Comment il fait, ce gars-là, pour dormir?
J'aurais aimé ça avoir son nom, puis juste poser la question
en
nom.
Gentiment.
Est-ce qu'il y a possibilité que dans les prochaines heures, on se penche sur le dossier de Simon Desmeules et qu'on pousse, si c'est une question, parce qu'il est rendu le 20e dossier, puis que d'ici une semaine ou deux, on va régler ça. OK, peut-être, mais si c'est juste parce que, bon, combien ça va coûter, combien et comment ça va marcher, moi, je pense que c'est une perte de temps. On sait que le système est en marche. Il y a eu quelques calibrations à faire. On attend juste la signature de cet ingénieur-là pour passer à l'étape de formation pratique. La théorie est faite. Ça fait nombreux mois. Puis la pratique va se faire dans 2 mois. Dans 2 mois, il rapporte déjà à l'État. Il va payer ses impôts en tant qu'employé. Qu'est-ce qu'on attend?
Ouais.
Deux chèques de plus, 3 chèques de plus, 4 chèques de plus, je sais pas.
Simon, là, never give up. Never, never, never. Puis on le salue.
Mais le moral est top shape.
Oh, ouais. Ouais, c'est un gars qui est super dynamique, là. Puis ça va bien dans sa vie. Sa conjointe est là. Tu sais, ils sont en amour. Puis il veut juste aller manger de l'asphalte. On lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Le sujet de ce soir, c'est toi qui l'as choisi. C'est le père et ses 4 enfants dans le transport. Et
oui.
Il nous présente Monsieur André, qui est le père. Monsieur André, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous, monsieur?
Ça va bien.
Bienvenue à Radio X.
Oui, l'an passé que j'étais venu faire une émission avec toi.
Exact. Mais c'est, quand je vous ai vu, je me suis dit, on s'est déjà vu. Puis là, j'ai vos fils aussi. Mais pour ce qui est de vos fils, là, je pense que c'est à cause qu'ils vous ressemblent que j'avais eu l'impression de déjà les avoir croisés.
Oui, Puis le père et les fils, ils ont fait de la chaudie. Ils savent c'est quoi faire de la neige comme vous parliez tantôt.
Oui, c'est ça.
On l'a fait nous autres mêmes.
Mais vous avez une chance, vos fils vous ressemblent. Fait que vous pouvez pas penser que c'est le voisin. Dans mon cas, moi, je suis tout à fait le contraire. Mes fils ne ressemblent pas en tout.
Même le Ben.
Oui, vous, ça fait combien de temps vous êtes camionneur?
Ça approche 50 ans.
50 ans.
J'en fais encore.
Vous en faites encore?
Je vais avoir 76 ans, 5 de mars.
Toujours aussi passionné?
Je vais faire 3 000-4 000 km par semaine encore.
Vous conduisez quoi, là?
Là, je vais reconduire des camions neufs pour l'abri, des camions vidanges.
OK.
Simard, Baie-Saint-Paul. On va partout aux États-Unis, où ils ont des camions éliminés.
Ça peut représenter combien d'heures, ça, par semaine, pour un homme de 75 ans?
On fait nos 40-50 heures en masse.
40-50 heures.
Oui. En masse, en masse.
Je parlais avec Ben tantôt du déneigement. Là. Vous, il y a 50 ans, vous étiez sur la route. Là. Est-ce que c'était mieux ou c'était à peu près l'équivalent?
Ça, c'est pas mal l'équivalent. Aujourd'hui, c'est parce que le monde ne savent pas ce qui s'en va. Mm-hmm. Le monde de l'automobile, là, c'est un gros problème.
Ils savent pas ce qui s'en va?
Ils savent pas ce qui s'en va.
C'est vous voulez dire?
Demande, mets-le à circuler à droite dans ton camion, puis m'a dit comme Serge mon gars disait tantôt, demande-y de t'emmener à Ville-Laval, ils savent même pas ce que c'est.
Non, ouais, mais dans le temps, vous fonctionnez avec une carte puis votre tête.
On marche avec des 4 jours.
Ouais, à cette heure, on fonctionne même pas avec la tête, là. On met Laval directement dans le téléphone, puis
il nous amène
jusqu'à Laval.
Ouais, mais il y en a qui se ramassent d'un bout aussi.
Oui, vous souvenez-vous de la fille qui avait suivi son GPS, qui s'était ramassée dans une piste de skidoo?
Oui. L'an passé, il y a 2 ans, Bernière, le livreur de pizza, s'est ramassé dans le bois.
C'est vrai? c'est vrai que c'est une grosse différence.
Une semaine, il y a un camionneur en Ontario qui a pris son GPS, s'est retrouvé dans une piste de motoneige. Ils l'ont sorti de là.
Ouais.
Une fois sorti, demande-moi pas comment c'est arrivé, il s'est resacré dans le fossé. Ça, c'est dans notre industrie.
C'est quand on dit
là.
Mauvaise journée au bureau. Là.
Ah non, mais là, c'est mauvaise journée tout court, puis mauvais mois, mauvaise semaine. C'est, va suivre ton cours, va suivre une formation quand t'es rendu de même, là.
Mais vous avez l'impression que les gens savent plus conduire aujourd'hui?
Ils savent conduire, mais ils conduisent avec l'idée qu'ils ont dans la tête. Ils se tosseront pas, ils vont te couper. Encore la semaine passée, là, 2 semaines, moi, c'est à route 20.
Mm-hmm.
Puis je fais te couper, j'ai dit, ça y est. C'est un pick-up avec un trailer en arrière. Pour moi, il a décidé qu'il n'y avait pas de trailer. Il m'a rentré ça en avant du camion, mon homme.
Vous avez peur, hein?
T'as pas le temps, hein, tu sais, tu réagis tellement vite, tu donnes un coup de roue pour pas qu'on se... Je touche mes doigts, je me stocke, puis bonjour, je descends à Québec, puis regarde, ça arrive souvent, ça, des affaires de même, puis le monde manque d'orientation.
Ouais. Puis je pense que tout automobiliste devrait s'asseoir dans un gros camion pour voir là, l'angle que vous avez de vue.
Venez faire un voyage avec nous autres.
J'avais vu, il y a un camionneur qui avait fait une capsule sur les réseaux sociaux, puis il l'avait mis, puis il disait, regardez, présentement, là, j'ai un véhicule qui est en avant de moi. Puis avec le téléphone, là, tu voyais la vue du camionneur, puis il n'y
avait pas de véhicule.
Jusqu'à temps que la lumière change, puis là, tu voyais le suppositoire. Le Paul, c'est quoi qu'elle a comme char, là?
Mini Cooper.
Une Mini Cooper. Là, tu vois la Mini Cooper partir, puis apparaître, tu sais, dans l'angle de vue du camionneur. Je veux dire, cette personne-là, là, tu sais, elle n'était pas consciente que le camionneur, il ne voyait pas en arrière, là.
Ah non, ça, c'est sûr et certain. On l'a vu encore la semaine passée, hein. Yvan, il est dispatcheur chez Guy Debeau,
puis
à Saint-Apollinaire. Un camion, il débarque pour s'en aller ouvrir à Saint-Apollinaire, il fait son stop, tout, il arrive vers la droite, la madame s'est tirée pour le dépasser par la droite, comme il coupait là, mais vu, hein, il l'a rentré de bonne main, ben d'aplomb.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené dans le camionnage, depuis 50 ans?
Moi, là, je vais être bien honnête avec toi, je voyais Mon père était cultivateur.
Ouais.
Je suis natif de la même région que la région de l'Assomption. Mes frères qui travaillaient sur des camions.
Ouais.
Sur un camion. Ils livraient des bols tank à lait dans ce temps-là. C'est les cultivateurs dans la belle chasse.
Je vais vous demander de parler dans le micro parce que là.
Moi, je les traitais quasiment de malades, les voir partir à 3h, 3h30 le matin.
Malgré que votre père était cultivateur, donc il devait faire le train de bonheur aussi.
Oui, on se levait de bonheur. Mais à un moment donné, regarde, mes frères, mes deux frères, son père, puis il était joué avec un autre. Ça fait ils ont lâché ça pour s'en travailler dans la réfrigération. Moi, j'ai embarqué ces trucs.
Les trucs. Ça a commencé comme ça.
Oui, c'est de même que ça a commencé.
Puis est-ce que vous avez déjà fait du US?
J'en fais en basse.
C'était comment dans le temps?
Canada, États-Unis, Mexique.
C'était comment dans le temps, l'US? Ben, il nous en parle souvent en disant qu'il y avait une confrérie, là. Tu sais, vous arrêtiez dans des truck stops et vous passiez des belles soirées.
80% de ma job, moi, 99,9% de ma job, envoie-moi aux États-Unis, je veux plus rien savoir du Québec. La première des choses, on n'a pas de route.
Ouais.
Tu te dépasses à Colotte, non, au Québec. Là, le temps du dégel commence, puis regarde les chemins, comment c'est tout des vallons. Puis, regarde.
Mais c'est un bon point, ça fait 50 ans. Vous étiez assis sur des caisses de lait quand vous conduisiez.
Puis moi, j'ai vu, j'ai fait de la Betjane pendant plusieurs années. Puis notre siège brisait à Betjane, puis tu rentrais dans un garage, puis soudain, ils mettaient des bouts de tuyaux en dessous, puis ils se planquer en dessous du siège, puis on s'en revenait de même.
Ouais.
On n'avait pas le choix.
Mais quand vous avez commencé, vous avez 50 ans. Je reviens avec la même question. Quand vous avez commencé, vous avez 50 ans, il y avait une confrérie chez les camionneurs, chez les truckers.
Oui, qu'il n'y a plus aujourd'hui.
Ça vous manque-tu, ça, ce temps-là?
Beaucoup.
Puis ça vous dérange-tu de savoir que vos gars vivront pas ce temps-là qui visiblement, à chaque fois que Ben m'en parle, c'était vraiment le bon temps du camionnage?
Ben, c'est sûr, parce que le soir, on se ramassait soit dans un bar ou bien dans un restaurant, n'importe quoi, on jouait. Puis les compagnies nous dispatchaient. Ils savaient qu'on était à l'hôtel après prendre une bière, ils nous dispatchaient là.
Ouais.
Ben, des fois, on fermait l'hôtel pour partir pour s'en aller travailler.
Ouais. Aviez-vous une blonde dans chaque ville?
Deux. Faut-tu le dire d'un coup si ma femme écoute?
Mais, est-ce que c'est une légende?
Il y en avait. Il y en avait qui avaient des blondes. Écoute, il y en a eu. Il y en a, regarde, Forestville, Québec, la cour du Geltra, de l'autre bord du pont, c'était pareil. Tu te levais le matin, t'avais des petites cartes dans ta vitre.
Puis, racontez-moi ça.
Numéro de téléphone.
Les filles arrêtaient.
Ils
vous donnaient le numéro de téléphone.
Oui. Ils laissaient des petites cartes.
Ils regardaient votre camion. Le camion, il était frotté, il était clean. Cet homme-là, il est propre.
Ça s'est fait en masse. Aux États-Unis. Oui, ça se faisait en masse. Aux États-Unis, il y avait un inventaire. Ils prenaient même la carte de crédit de la compagnie.
Wow!
Mais aux États-Unis, il y avait des cartes médicales.
Ouais.
Il y avait tout ce que c'est qu'il fallait. Celui qui désirait sortir, il sortait. Celui qui aimait mieux rester dans son camion, mais c'était dans son camion, c'était libre à lui de faire ce qu'il voulait.
Puis vous étiez quel genre?
Ah, j'ai sorti. Je m'en garde pas. J'ai sorti.
C'est mieux de pas trop le faire parler. Là, tu serais peut-être bien mieux de pas trop le faire parler. Puis il y a des affaires qu'on sait même pas, nous autres. Là.
Ma job, c'est de faire jaser le monde, moi. C'est ça, ma job. C'est ça, ma job. Comment vous avez transmis votre passion du camionnage aux enfants?
Ben, je les emmenais comme lui. Je l'ai même changé de couche dans le camion.
Ouais.
Je l'ai emmené qu'un petit
peu. C'est pour ça qu'il y a l'air de ça aujourd'hui?
Oui, oui. Il est en course à la route. C'était ça. C'est le même que ça marchait.
Ouais.
On les emmenait jeunes avec nous autres. Martin, celui-là, lui, c'est pareil. Il est venu un petit peu moins avec moi. Mais les autres sont pas mal tous venus avec moi. Oui, c'est pour ça qu'ils ont fait un dispatcheur.
Oui, je me rappelle, on descendait, là, on travaillait pour une compagnie de Laurier. Il travaillait pour une compagnie de l'orientation, puis là, il m'a amené avec lui parce que des fois, il était trop fatigué pour conduire. Moi, je devais avoir 13-14 ans. Puis là, il embarquait ça à 20, puis là, on changeait de siège. Il sautait se coucher. Il disait, mec, on arrive à Québec, tu me réveilleras.
Il raconte ça à la radio, lui.
Je l'ai fait.
13-14 ans?
Ah oui, ils ont commencé à chauffer très jeune. Lui, c'est pareil. La première fois que je lui ai donné la roue, lui, avant de rentrer à Toronto. J'ai dit, tu me réveilleras de l'autre bord de Toronto.
Je suis à 401, oui, j'avais ça 14 ans.
Ouais, 401, oui, 14 ans.
Quand tu m'as donné la roue de l'autre bord de Toronto, Son t-shirt était tout 30, t'aurais pu le tourner.
C'est vrai?
La pression, hein? Ouais.
Mais c'était de même dans le temps, puis encore.
Oui, là, mais c'est de même qu'on montrait à chauffer à quelqu'un.
Oui, oui, ouais. Mais juste en Beauce, là, moi j'habite en Beauce, là, je voyais les enfants sur le lac en skidou, là, tu sais, des gros skidou, ils ont 9 ans. Je me dis, si jamais un policier de la ville de Québec voyait un enfant de 9 ans sur un skidou à Québec,
OK, ça mais serait ça serait quoi le mal, mettons, on jase, là? Ben, c'est ça un lac, le danger.
Ils n'ont pas le droit, Ben, c'est la loi est faite de même, oui. Le policier est là pour faire appliquer la loi.
Mais mettons un fermier là, qui est sur sa terre, sur ses propres terrains, puis prends le skidoo, jeune. Va l'essayer un petit peu. Là. Mets pas ça au fond. Là. Puis sur les motoneiges, il y a 3 cycles. Là. Ben, en tout cas, Bombardier le fait. T'as le cycle vert, bleu et blanc. Sport, normal et puis économique. Économique, là, c'est 50 km/h, je pense, ou 80 km/h au fond. Pas grand danger sur un lac ou dans le milieu d'un champ.
Sauf que, tu sais, quand t'as grandi à Québec puis t'as jamais vu ça, tu vois un enfant de 9 mois sur
une grosse motoneige.
On a tout conduit.
Qu'est-ce que c'est ça?
On a tout conduit jeune, à 7, 8, 9, 10 ans.
Moi, je me souviens.
On était sur une ferme puis les tracteurs, n'importe quoi, on n'avait pas de quatre roues dans ce temps-là.
Je suis beaucoup moins vieux que Ben, d'ailleurs, vous pouvez le voir par ses cernes. quand j'étais jeune, là, je m'assoyais sur mon père puis je conduisais. Là, je conduisais la voiture. Ouais. Mon père, il surveillait. Tu sais. Puis c'était des beaux moments. Aujourd'hui, il s'est rendu. Il dit, tu fais ça avec ton enfant, la DPJ débarque. Là. Les lois ont changé.
Ils ont changé parce qu'ils ont pris tout le monde comme... le monde qui reste en ville. Le monde qui reste en ville, c'est sûr, ils n'ont pas la chance de faire ce que c'est qu'un cultivateur va montrer à ses enfants.
C'est ça.
Mais le cultivateur est pénalisé autant que le monde de la ville aujourd'hui. Les assurances s'en ont mêlées. T'sais. La police s'en mêle. Il y a un monsieur qui était au gouvernement qui s'en mêle beaucoup. Je le nommerai pas. Là,
mais... Quand vous faisiez du US, des fois, aviez-vous l'impression de passer en fer à la maison? Parce que de plus en plus, la nouvelle génération de camionneurs, eux autres, ils trouvent ça dur d'aller faire un tour aux États-Unis quand leurs blondes viennent d'avoir des enfants. Ils se disent
c'est pas. C'est parce qu'aujourd'hui, la génération qui pousse, c'est 4 jours par semaine. Nous autres, on a toujours travaillé 7 jours par semaine.
Ouais.
Puis je travaille encore.
Puis vous faisiez à fil pour
téléphoner.
Je travaille
encore 7 jours par semaine.
Vous faisiez à fil pour téléphoner à la cabine.
Oui.
Ce qui était le fun quand il était à la maison, c'est qu'on avait une piscine, puis notre mère, elle voulait pas qu'on se baigne après ce pas. Puis quand il était là, on allait le voir. Il disait, allez-y vous peigner, ça me dérange pas.
Mais c'est ça, hein, la différence entre votre temps puis aujourd'hui, en 2020, les jeunes qui commencent, aller en Californie, là, c'est le fun 2-3 fois, mais après ça, une fois que t'as des enfants, ben là, ta conjointe a dit, oui, là, je voulais un camionneur dans ma vie, mais là, je veux aussi un père pour mes enfants.
Nos parents s'en allaient bûcher. Moi, mon père, j'ai connu un petit peu, puis ils passaient une partie de l'hiver dans le bois, tu sais, on les voyait pas, nos parents.
Mais comment vos gars gèrent ça avec leurs enfants?
Ça a l'air à bien aller, parce que... Ouais.
Moi, j'ai lâché la route quand j'ai eu ma fille. Ma fille, elle a 7 ans.
OK.
Puis je me suis dit, je vais être présent pour ma fille, fait que... Quand elle sera plus vieille, je sais pas, je rembarquerai pas, mais pour l'instant... J'ai une job de bureau, puis je passe du temps avec ma fille.
Fait que toi, c'est ça. Pour les enfants, tu te dis, je vais rester ici, puis je partirai pas ce jour comme il faisait dans le temps. Puis vous avez raison, mes grands-pères, c'est ça. Moi, mes grands-pères, ils étaient dans la Sûreté du Québec, mais il y avait des terres, puis ils s'occupaient de leurs terres. Ils n'étaient jamais nécessairement à la maison avec leurs enfants, là. Tu sais, c'était ça, dans le temps.
Ben, nos parents n'avaient pas d'argent.
Non, c'est ça.
Aujourd'hui, ça gagne des gros salaires. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était 100 heures. 57 piastres et 35 clairs par semaine.
100 heures, 57 piastres et 35 par semaine.
Oui, en 69.
À cette heure, c'est quasiment à l'heure dans certains métiers.
En 69.
Mais si on fait la conversion, là, ça peut ressembler à quoi, ce salaire-là, aujourd'hui, en 2020? Raph,
un petit peu,
le taux horaire, c'était combien, à peu près?
Ah, on n'avait pas de taux horaire. Tu travaillais, puis c'est ce que c'est que...
Ça vous donne
à peu près 65 piastres par semaine, à peu près 65-70 piastres par
pour
semaine.
Pour 100 heures de travail.
Oui. Même j'ai des copains de travail dans ce temps-là, ils vivent encore aujourd'hui. Ils travaillaient pour 55 $.
Donc, on disait combien par semaine?
Mettons 60 piastres.
Mettons 60 piastres par semaine.
Vu là 50 ans. Fait que,
par semaine? 1970. Attends un petit peu, j'ai du bon chiffre. On dit 612.
612 aujourd'hui.
1970, 612 piastres par semaine pour 100 heures de travail. C'était pas grand-chose quand même. Là.
Non.
Puis après ça, les salaires ont augmenté un peu.
On n'avait pas le choix. Le samedi, il fallait rentrer, changer les camions d'huile, réparer les crevaisons.
Pour pas perdre votre job.
Oui, pas perdre notre job. Parce qu'il n'avait des mécaniciens, mais ça ne travaillait pas les fins de semaine. Puis, ça n'a pas trop été drôle, mais regarde, on n'a pas ça au travail pareil. Ouais. Puis, regarde, je travaille encore aujourd'hui. Si je n'aimerais pas ça, je ne le ferais pas.
Les auditeurs vous posent une question. Quelles ont été les meilleures années pour vous pour ce qui est du camionnage? Au niveau ambiance, mais au niveau salaire, ça pouvait ressembler à quoi?
Quand les meilleures années, c'est quand le transport était réglementé. Avant qu'ils déréglementent le transport. Le matin qu'ils ont déréglementé le transport, on s'est mis à gagner des gros salaires.
Ah oui?
Mais regarde, on marchait deux puis trois logbooks dans le truck, on faisait des heures.
Oui. Mais quand est-ce qu'ils ont décidé de déréglementer
ça? Les années 80. Hein? Fin 80. Ouais. Quelque chose
mais
de même.
J'ai toujours pensé que le transport avait toujours été réglementé.
Non. Réglementé, c'est la déréglementation. Avant la déréglementation, c'est qu'il y avait des secteurs prédéfinis pour certaines entreprises. Mettons, on achetait un permis comme une entreprise de transport puis on avait telle région qui nous était attitrée. Donc, les clients devaient faire affaire avec nous.
C'est comme les permis de taxi dans le temps.
Un peu. Comme les permis de VR qu'il y a eu aussi dans le VRAC. Là.
Ouais.
Ça veut dire qu'on a des secteurs bien définis puis on a l'ouvrage dans ce secteur-là qui nous est donné à nous autres et tout nous passe dans les mains. Avant de, disons, peut-être envoyer à l'extérieur, mais même, je pense que c'était, si je veux pas de troc, ben, tu vas vivre avec ça, point.
Pis ça, c'était bon ou c'était pas bon, là? Quand vous aviez des secteurs attitrés, tout
c'était
ça?
C'était bon.
C'était bon, ouais.
Bon, parce qu'on s'éloignait pas trop, tu sais, on restait au proche, puis on savait tout ce que c'est qu'on savait, on faisait le lendemain.
Okay.
Quand ils ont déréglementé, on s'est mis à courir loin. On allait au loin, on n'avait pas de retour, on était pris pour attendre.
Ouais.
Pas payer trop, puis pas payer partout. Pour le temps qu'on attendait. Nous autres, on avait des dépenses, pour gagner pas cher. Puis, dans les années 70, quand la budget m'a rouvert, 70-71, c'est là qu'on a commencé à remonter.
Ah oui?
Mais c'était pas payant tout cassé bien. On travaillait encore pour 350 ou 375 piastres par semaine. Puis tu partais 15-18 jours parti de la maison. Puis,
mais quand on nous dit que les salaires n'ont pas bien augmenté depuis les années 80, là, vous le confirmez? C'est à peu près encore la même affaire. Mais pourtant, le niveau de vie...
Il y a des compagnies qui payent très bien aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui... Va-t'en dans le coin de la Gaspésie, va-t'en en bas des Rimouski, un petit peu en descendant vers la Gaspésie, tu vas voir qu'ils sont dans les années 70, eux autres, encore avec des places.
Parce que le coût de la vie a augmenté, là.
Oui, mais celui qui reste à Gaspé paye la livre de beurre le même prix qu'on l'a payé à Québec.
Oui, c'est ça.
Mais ils n'ont pas de salaire.
Mais les salaires sont moins bons.
J'en connais en bas de trois pistoles, là, qui est des chauffeurs qui voyagent aux États-Unis. Là. Je te jure qu'ils gagnent pas cher.
Comment c'était les douanes en 1970?
Moi, les douanes, je n'ai pas un mot à dire ces douanes. C'est toujours le douanier qui fait la loi. C'est pas le gouvernement qui fait la loi, c'est le douanier. Le douanier, s'il dit tu passes pas.
Mais est-ce que c'était plus sévère des années 70 ou moins sévère?
Regarde, c'était nous autres qui faisaient tous nos papiers pour traverser les douanes. Ça fait que des fois, tu pouvais coucher aux douanes. J'ai vu arriver le dimanche, je m'en allais pour livrer le lendemain matin à New York pour 8 heures. Et lundi matin, j'étais encore à la douane à l'école. Parce qu'ils ne voulaient pas me laisser rentrer. Ou bien, ils avaient ouvert quelques boîtes, puis ces meubles, c'était pas marqué Made in Canada. Il fallait que la compagnie envoie des gars avec des étampes pour revenir marquer Made in Canada sur ces meubles. Puis, aujourd'hui, ça a bien changé, mais c'est tellement que ça marchait.
Ouais.
Ça marche.
Les auditeurs vous posent des questions. Est-ce que dans les années 70, il y a des gens qui vous approchaient aux États-Unis pour ramener du stock, du stock au Canada?
Oui. Moi, ça m'est arrivé, ça, dans le Brooklyn, à New York. J'étais après tombé dans un entrepôt, il arrivait un beau gros monsieur noir, un costaud. Là.
Ouais.
Il dit, tu me descends dans le paquet à Montréal, 500 piastres pour toi. J'ai dit, j'en prends pas de ça. Mais quand j'ai sorti, ben, de là, lui, il était parti, puis mes deux pneus de rechange en dessous de la vanne étaient partis aussi. Il avait volé mes deux pneus de rechange.
J'étais
parti avec ça. Tu sais, regarde. Pourquoi?
Il veut revendre 500 pour payer un autre.
Voilà.
Ben, c'est le danger. Le danger que je vois encore aujourd'hui, c'est que vous, là, c'est assez visible que vous êtes camionneur. C'est écrit en arrière à la plaque d'où est-ce que vous venez, puis vous venez du Canada. Eux autres, ils pourraient très bien cacher du stock en dessous de la remorque.
Ben, lui, il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer dans le bout de Chicago. Toi aussi, je pense.
On va y revenir sur Chicago, mais. Tu sais, le stress que ça doit être des fois quand vous êtes dans des endroits qui sont pas très safe, de vous faire cacher un paquet en dessous de la remorque, vous le savez pas.
Ça, on n'a jamais douté. Moi, j'ai jamais douté de ça.
Non.
Mais ça, c'est comme le gars qui part et qui dit, je vais avoir un accident, tu restes chez vous. tu pars pas.
Monsieur Terrien, il est pas, c'est pas un peu heureux, ça.
Non, non, je vois n'importe où, puis garde.
Vous étiez fait attaquer à Chicago?
Ouais, ben, c'est ça, j'étais avec mon frère, on allait livrer du zinc, puis c'est une place que j'avais jamais été. Puis, ouais. Dans ce temps-là, on n'avait pas de GPS, rien, fait que j'avais arrêté dans un. Lui, il avait, on avait deux trailers, fait que lui avait mon deuxième trailer, puis moi j'avais le premier.
OK. Puis. Là, c'est les deux ensemble, là, ouais, un derrière de l'autre.
Ouais, ouais. On travaillait les deux pour la même compagnie, mais on avait des bitrains, fait que on allait tout le temps livrer les voyages complets, fait que lui prenait un de mes trailers, puis après ça, on faisait les siens, tu sais. Puis on s'en allait chez Midwest Zinc à Chicago, puis là, je trouvais pas l'adresse. On voyait le building, je voyais la rue, mais j'étais pas capable de trouver le client. Puis j'ai dit, je vais aller acheter une carte de la ville, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas de GPS, on avait rien de ça. Fait que je débarque, puis il est arrivé deux gars qui sont venus nous trouver. On dit, cherchez-vous quelque chose? Il dit, ouais, je cherche Midwest Zinc.
L'un qui a embarqué sur mon marchepied, puis l'autre qui a embarqué sur son marchepied à lui.
Fait que là, on a parti. Là, il dit, je vais t'expliquer c'est où. Fait qu'il m'a amené direct dans le cours du client. Fait que là, il a débarqué. Moi, je me suis penché pour ramasser mes papiers, puis quand je me suis relevé, il m'a piqué un couteau autour de la gorge.
Hey. Wow.
Puis là, il dit, donne-moi ton argent. Fait que là,
est-ce que tu t'exprimais bien en anglais à ce moment-là?
Ben, ça fait 30 ans que je conduis des camions.
Ouais.
Ça fait. Puis je parle pas plus anglais que le bout de 30 ans. Je me débrouille en autant que ça reste dans le métier.
Parce que dans certains quartiers à Chicago, ça slang en tabarouette. Puis en plus, si le gars il est nerveux, là, comprendre le slang. Ça.
Fait que
c'est
là, j'ai donné l'argent que j'avais dans mes poches. Puis là, j'ai débarqué. Lui, il me parlait sur CB. T'es-tu correct? T'es-tu correct? Parce qu'il a vu partir le gars à la course. Il se posait des questions, mais moi, j'étais gelé là.
Ben oui.
Puis là, il est arrivé. Puis en tout cas, c'est.
Ça, le lendemain matin, quand on s'est réveillé de cet endroit-là, en avant de nos camions, c'était comme un bout de rue là, qui ne débouche pas.
Ouais.
Puis il y avait des seringues partout à terre. T'sais, c'est vraiment un quartier où ça brasse. Il y a un gars qui arrive avec un panier d'épicerie. Il demande à Serge, vous voulez voir avoir du café? Je vais aller vous chercher du café. Il pogne 10 piastres US, donne ça au gars, on l'a jamais revu.
Toi, tu viens de te faire cambrioler. Ben pendant que je pense, t'as pas 20 piastres à me passer à ça.
Tu veux-tu US ou Canadien?
Tu vois que
c'est généreux, hein?
Un bon gars. Un bon gars. Est-ce que c'est la seule fois que tu t'es fait attaquer?
On l'a attendu longtemps, le café.
Ouais, mais j'ai tout le temps été peureux un peu. Tu sais, je vois jamais coucher chez les clients. J'arrête tout le temps dans un truck stop. Ouais. Je me rends le plus proche possible. J'arrête dans un truck stop.
C'est ça.
J'ai de mes amis qui, eux autres, s'ils vont coucher chez le client, à cette heure, avec les téléphones, avec la vision satellite, t'es capable de voir la cour du client, où est-ce que tu vois, s'il y a de la place ou s'il n'y a pas de place.
OK.
Moi, je me casse même pas la tête avec ça. Je m'en vais dans un truck stop. Puis le lendemain matin, je pars une demi-heure, une heure, plus de bonne heure. Puis... moi, il faut que je sois en sécurité. Puis
ça, puis ouais, mais ça c'est dort
pas juste
mieux.
Ça, ouais, ben pas juste ça. C'est que s'il m'arrive de quoi, là, je veux être avec du monde. Là, je suis rendu à 54 ans. Fait que mon père a fait deux crises de cœur, a fait un cancer de prostate. Moi, je sais pas ce qui va m'arriver. Là,
fait que, non, mais c'est plus sécuritaire. Puis en même temps, t'sais, moi, je fais beaucoup de road trip en moto. Puis quand des fois, je dors dans des endroits un peu bizarroïdes, là, mais je m'assure toujours que ça soit très éclairé puis que je sois à la vue de tout le monde. T'sais, on va pas se mettre dans des endroits où c'est noir. Au Texas, il m'est arrivé une affaire. Je dormais dans un rest area. Puis bon, vous allez comprendre que je suis pas un camionneur d'expérience, hein. Fait que je suis dans le rest area, je suis couché sur un banc de parc avec la grosse lumière d'en face, mon sleeping puis ma moto qui est juste à côté. Puis à un moment donné, je sais pas à quoi je rêvais, mais tu t'es pas chez vous, t'es dehors. Fait que t'es un peu entre la réalité puis le sommeil. Puis j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait tiré un coup de dose directement sur moi. Fait que je me réveille en panique avec quelqu'un qui débat. Puis là, je me suis dit, je viens de me faire tirer. Mais j'avais vu un gars de dépanneur avec un gun là, à ceinture pendant l'après-midi. Fait que j'imagine que c'était à ça que j'étais en train de penser pendant la nuit. Mm-hmm. Finalement, dans la vallée au Texas, là où était le rest area, ben il y a un pneu de van qui avait éclaté.
Ah. Fait que c'est ça que t'as
c'était ça le coup de dose. J'avais eu peur.
Mais cette idée de coucher d'un banc de parc de rest area, il y a plein de gens qui vont te dire que c'est même pas, on pense pas à faire ça.
Ouais. C'est la vie, hein?
Ouais.
C'est un peu pire que nous autres, ça, là.
Ouais, mais ouais.
Tu sais, un motel cheap à 29,99, c'est peut-être plus sécuritaire
c'était
que le banc.
19,99.
Ouais. Ouais. Ça existe encore. On voit des pancartes, des fois, le long des autoroutes, genre 19,99 ou 29.
Ben, c'est des motels à passe, là. T'es pas supposé dormir là, t'es supposé te faire la passe, là.
Ouais. Puis d'après moi, le couvre-lit est changé au mois et non pas à chaque soirée.
Faut que t'amènes ton sleeping. Tu dors habillé. C'était ça. C'était ça,
regarde, la semaine passée, ça, je disais à Ben, la semaine passée, ça m'est arrivé quand j'ai descendu à Chicago Rouge. Justement, j'ai terminé notre voyage-là, puis couché au truck stop, puis je sais pas quel heure qui était, ça a cogné dans ma porte. Fait que là, c'était une prostituée, ça, c'est sûr.
Elle voulait faire le ménage?
Ben, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais ça allait arriver le jeudi passé dans un truck stop, là, c'est à 94.
As-tu répondu?
Je le savais, puis
parce qu'elle aurait pu prendre ton 50$ pour partir avec.
Mais là, je peux pas parler parce que ma fille est là, fait que je peux pas parler.
D'après moi, c'était le gars qui venait livrer ton café il y a quelques années.
Elle dirait ça, elle voulait tout de te demander d'avoir du café.
Moi, j'ai vu dans un truck stop en Pennsylvanie où une fille a débarqué d'un truck.
Ouais.
Elle s'est assise en. Hein, où tu donnes tout d'un trou d'eau, elle s'est envoyée un peu d'eau là pour embarquer dans un autre truck.
Wow!
Quelque chose, là.
OK. Elle a changé de truck, mais entre les deux, elle a pogné le trou d'eau, puis elle s'est nettoyée.
Elle rafraîchissait un petit peu.
Un petit rafraîchissement.
Incroyable.
Et bon.
Incroyable.
Il y a toutes sortes de choses qu'on voit.
Avec le blocus actuel, est-ce que vous avez plus de jobs ces temps-ci? Est-ce que vous sentez qu'il y a une
beaucoup
plus grosse
demandes.
Pression?
Beaucoup de demandes. Nous autres, on a une compagnie à... dans le coin du lac Saint-Jean, qui nous demandait 50 voyages dans une semaine pour monter ça en Ontario, parce que en Ontario, là, ils sont capables de prendre le train pour aller aux États-Unis.
OK. Puis ça a-tu, avez-vous été capable de les aider?
Oui, on les a fait.
50 voyages?
Oui. Ben, notre compagnie plus des partenaires.
Là. OK.
Mais ça s'est fait. Mais c'est le même partout, là, présentement. Là.
Puis selon ce que vous entendez, pensez-vous que ça va durer encore bien longtemps de votre côté? Parce que j'écoutais un expert qui mentionnait qu'au port de Vancouver puis au port de Montréal, là, les conteneurs commencent à s'empiler. Puis chaque jour où il y avait le blocus et où les bateaux pouvaient pas repartir avec le stock, ça prenait 3 jours avant de reprendre cette journée-là.
Oui.
Puis ce qu'il mentionnait, c'est qu'on était déjà rendu à presque un mois et demi, deux mois de retard.
Moi, je pense que le gouvernement a perdu le contrôle là-dessus carrément. Ouais.
Pourquoi que le gouvernement ne se réveille pas et nous coupe les vivres? Pourquoi que le gouvernement le coupe
non,
pas
c'est,
les vivres?
Non, c'est plus haut que ça encore. Là. C'est... Trudeau, je pense que c'est pas l'homme pour régler ça. Puis, je sais pas qui va être capable de régler ça, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, il va falloir qu'il...
Parce disons qu'on jase, là, toi et moi, Marceau, à soir, on bloque le pont de Québec. On dit, tiens, à soir, il y en a plus qui passent. Puis le pompier à la porte, c'est encore au pire. On va bloquer ça à soir. D'après moi, une demi-heure, on est dans le panier à salade.
En fait, oui, on est dans le panier à salade, puis c'est criminel. Là.
Pourquoi
c'est...
qu'il n'y a pas pourquoi qu'il y a deux systèmes de lois ici au Canada?
Dans leur cas, eux autres, s'ils font ça sur leur réserve, sont techniquement corrects pendant un certain temps. Dans le cas de Saint-Lambert, il y avait des gens à l'hygiène un peu douteuse de l'UQAM, puis l'hygiène un peu douteuse de Québec solidaire. Eux autres, ils ont été là, et ça, c'était carrément illégal. Puis les gens qui ont été arrêtés, techniquement, devraient être poursuivis au criminel. Est-ce que ça va se faire? Je le sais pas.
Moi,
finalement, on n'a pas la ligne dure envers ce type de manifestants-là. Mais le problème est que, qu'est-ce qu'on montre actuellement aux Mohawks, là? On a peur de vous autres. On sait pas comment réagir. Puis on a un mandat pour vous tasser de là. Mais là, on sait qu'il y a des armes, puis on stresse un peu. C'est ce que François Legault a dit. Ben il y a des AK-47 là, c'est en réserve présentement. Je me dis, à quoi ça sert de donner un gros budget à la SQ pour qu'ils s'achètent des gros camions blindés, de l'équipement comme pas possible, puis pour que les gars puissent se surentraîner pour ce genre d'affaires là. Puis là, parce que la possibilité d'armes de ce type-là, il y a un stress supplémentaire. Moi, je me dis qu'il essaie de sauver du temps pour pas perdre la face, là.
Puis d'un autre côté, pauvre policier qui serait mandaté pour aller régler ou démanteler une barricade quelque part, sachant très bien qu'il pourrait être victime de tir.
Ouais.
Je pense pas qu'il y a un policier qui va dire ouais, moi, je suis volontaire, je me porte volontaire, puis je vais chauffer l'espèce de camion qui peut aussi se faire tirer dessus.
Moi, je pense que où ce que c'est rendu là, c'est plus aux provinces de régler le problème, c'est au fédéral.
Oui, ben c'est parce que le problème, puis tu as entièrement raison, le problème, c'est qu'au Québec, on est différent du reste du Canada. C'est pas la GRC qui opère. Dans notre cas, nous autres, c'est la Sûreté du Québec, puis la Sûreté du Québec répond pas de Justin Trudeau. Sûreté du Québec répond de François Legault. Puis pour ce qui est de la GRC, ben là, ça va être plus du ressort de Justin Trudeau. Plein de questions qui rentrent à la station, c'est le fun. Monsieur André, vous êtes populaire. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous êtes un homme d'expérience, que vous êtes populaire, les femmes écrivent. un homme d'expérience de même. Qu'est-ce que vous pensez du log électronique, vous?
Ben, ça s'en vient là. On n'aura pas le choix.
Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou
pas? Je l'ai déjà, Martin m'a levé sur mon cellulaire. Moi, je suis déjà prêt, mais qui me le demande.
Mais est-ce que c'est quelque chose de bien selon vous? Selon votre vision à vous? Puis là, votre fils dit le contraire à côté.
Moi, je travaille pour une entreprise où on est près de 400 camionneurs. Ouais. Même plus que ça, je pense que c'est 600 employés, chauffeurs. Puis je te dirais, sur 600, il y en a au moins 550 qui retournera pas au papier.
Qui quoi?
Qui ne retournera pas au log papier.
OK, donc ils sont très satisfaits du log électronique.
Mais sauf qu'on fait des runs où que la plupart reviennent à la maison tous les soirs. Fait que, ils ne sont pas assujettis à coucher à une demi-heure de la maison.
Puis dans votre cas, vous, M. Terrien, pourquoi vous dites que c'est pas nécessairement la meilleure des idées?
Moi, je passe les semaines dans un motel. Je couche d'un bord puis de l'autre. Mais je peux partir 5 jours, 5-6 jours.
Oui.
Regarde. Je sais pas. Je suis habitué, j'ai trop. Depuis 1971, je fais des logbooks au papier. C'est dur pour nous autres, à l'âge qu'on est rendu, là, prendre les nouveaux systèmes. J'ai de la misère avec un cellulaire. Ben, toi, reprendre ça par-dessus. Martin m'a dit que ça prendrait une semaine à me le montrer.
Mais quand il est entré en force aux États, quelques mois avant, moi, il y avait plein de gens qui venaient sur Facebook dire « C'est pas bon, je lâche le transport, je veux quitter le transport, c'est de la chenoute, puis c'était négatif au bout. » J'en ai pas vu ben partir, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a bien de ces gens-là qui disent « Je ne retournerai pas en arrière parce que c'est un ordinateur qui gère vos heures. » Et il y a plus... Tu sais, dans le fond, dans le temps, il y avait des répartiteurs qui poussaient, puis qui étaient un peu... qui s'étaient compromis avec un client en disant « Je vais aller, oui, on va être là, puis je vais aller livrer ta cargaison. » Mais aujourd'hui, tout est informatisé. Je suis capable, en temps réel, de dire « Bon, ben regarde, il va être chez vous à peu près à telle heure. » Et après ça, il reste peut-être 5 heures. Si tu le fais pas patienter des heures et des heures le déloader, il est possible qu'on puisse ramasser le stock ailleurs puis que ça se fasse bien plus vite. Là, tout est informatisé. Au Canada, il est pas encore en force, le log électronique. On marche encore sur papier. Mais il y a bien des compagnies qui sont proactives, qui ont déjà installé les logs électroniques dans leurs camions pour que, au mois de juin, ben, que tout le monde soit à date et puisse fonctionner avec un logbook électronique.
Il y avait un gars qui m'avait appelé qui disait qu'il était pogné à Daishawa, même s'il habitait à peu près à 30 minutes de la Daishawa, là, parce que son log électronique lui disait qu'il n'y avait plus d'heures en banque pour pouvoir continuer. Toi, tu m'avais parlé d'une période de grâce.
Oui, il y a une période de grâce.
J'avais repensé à ça après. Est-ce que lui devait possiblement avoir expiré sa période de grâce?
Ben, des fois,
là,
c'est ça. Mais dans ce cas-là, ça serait peut-être à son employeur de fournir un genre de petit service de navette. C'est que la navette va chercher le chauffeur, puis toi, t'embarques dans la navette, va-t'en chez vous. Puis la journée est finie parce que j'essaie toujours de comprendre. Le logbook, quand on arrive à la fin des heures d'une journée ou d'une semaine, je peux rester ici à Québec, puis mon terminal est à Montréal. Je vais faire 2 heures de char. Je suis pas plus sécuritaire. Je suis pas moins ou plus fatigué que si j'étais dans le camion. C'est correct, si j'ai un accident, ça va faire moins de dégâts. Mais je suis capable encore de conduire, puis je pourrais partir même de mon terminal puis descendre, au Texas sans dormir. Il n'y a plus de réglementation. Pourquoi qu'à un moment donné, c'était à une demi-heure de chez vous? Je sais pas, tu sais, il pourrait avoir une souplesse dans les nouvelles réglementations ou peut-être à un moment donné, ça se négociera. Mais si t'es en dedans de, je sais pas, X nombre de kilomètres, ben, il y aura une période de grâce à louer, va-t'en chez vous, point. Puis surtout, si t'es obligé de prendre 36 heures dans le truck à une demi-heure de chez vous, tu sais. C'est incompréhensible, là.
Aujourd'hui, en 2020, j'ai l'impression que les contrôleurs routiers sont les alliés des camionneurs. Du moins, c'est ce que tu tends à mentionner, là. C'est qu'il y a des camionneurs qui s'entendent très bien avec les contrôleurs routiers et ça va bien. Puis parfois, ben, je lis des fois tout à fait le contraire. Ça arrive. On n'est pas obligé d'être tout le temps du même avis. Monsieur Terrien, vous, ça fait 50 ans que vous faites du camionnage. Les contrôleurs routiers, là, est-ce que ça, leur mentalité a changé au fil du temps?
Non, moi, j'ai pas un mot à dire contre eux autres. Ils font leur job. Comme nous autres, on est obligé de faire la note. Puis regarde, je m'en fais vérifier dans les États-Unis, la balance américaine, on arrête d'acheter des permis, on fait différentes choses. Même ici, au Québec, moi, j'ai pas... Donc, j'ai même été demandé des services à eux autres, là, sur le logbook, puis c'est à Bernière. J'ai rencontré des officiers, là, à maintes reprises. Non, moi, j'ai pas un mot à dire. Ils font leur job, on fait net.
Quand vous avez, quand vous êtes rentré dans l'industrie du camionnage en 1970.
Ah, il n'y avait pas grand monde sur les routes dans ce temps-là.
Il n'y avait pas grand monde sur les routes, mais vous étiez juste des gars. C'était un boys club.
Oui, oui, dans ce temps-là.
Depuis que les filles sont embarquées dans le camionnage, y a-t-il des choses qui ont changé?
Non, non, non. Les filles font leur job. Regarde, les filles font leur job. Ils gagnent leur salaire comme nous autres. T'as pas le choix aujourd'hui, là. T'as 11 heures à faire, ou bien t'as 13 heures à faire. Pis,
mais les discussions doivent avoir changé dans les truck stops.
Ben, ça n'ose plus.
Il
n'y
a plus personne
dans
les truck stops.
Ça personne dans les truck stops.
Donc, c'est à cause des filles.
Ben, c'est moi,
ce que je trouve de malheureux, dans notre temps, on avait des places qu'on pouvait arrêter se coucher.
Ouais.
À cette heure, moi, je regarde ça, là, ça a recommencé à coucher du long des routes.
Oui.
Parce qu'ils n'ont plus de place. Si tu vas aller coucher, soit qu'il y a une chair.
C'est, des fois, ils se font tasser.
Oui.
Moi, ça, Ben, là, je comprends que les policiers puis les
gars, moi aussi, ça me
les contrôleurs routiers, il faut qu'ils fassent respecter la loi. Mais le gars, il n'y a pas de place où aller coucher.
Oui.
Sacrifice. Puis là, t'as le policier qui dit, là, il est 3h du matin, au-toi de là. Ouais, mais il n'y a pas un chat, là, je suis pas une menace. Non, au-toi de là, t'as pas le droit de parquer de là.
C'est
comme si vous étiez néfaste pour la société, là, tu sais. Mettons, le virus ou le cancer,
C'est comme pour les restaurants, c'est pareil. Ils ont fait des choses de ciment sur le bord, t'es plus capable de rentrer, ou ben, tu sais.
Pas de stationnement.
Pas de stationnement, rien, ça fait que.
Les truck stops, là, aussitôt qu'on arrive en Ontario, on s'aperçoit que les camionneurs au Québec sont pas nécessairement bien traités, là. Truck stop en Ontario, là, c'est aller on route, c'est ça? Ouais. Je veux dire, vous êtes gâtés, là.
Juste au 228, je couche là l'autre nuit, puis t'es même pas capable de me rentrer dedans. Les portes sont barrées, tu peux même pas aller aux toilettes, puis c'est un alto d'hier, ça marche pas.
Mais voyons.
Ah oui. Tu vois là, dans la nuit, les portes sont barrées. Mm. Tu peux même pas aller aux toilettes.
Puis c'est souvent marqué manque de personnel ou personnel demandé.
Mais ça, c'est aberrant, là. Ça a pas de maudit
bon sens. Il y a Tim Horton à Rivière-Baudette, là, quand on rentre de l'Ontario vers le Québec, c'est à 20, qui est complètement fermé, faute de personnel. Trop difficile de trouver du personnel.
Il est complètement fermé, hein?
On l'a fermé.
Tu sais, je devrais pas dire ça, mais quand je me promène sur la route puis je vois des rest areas, des fois, un peu comme tout le monde, faut que j'aille aux toilettes, puis ça a l'air tellement malpropre que je préfère aller en arrière de la cabane puis pisser au vent ou contre le vent, hein, des fois.
Oui. Bon, pas dans l'Ouest canadien parce que tu vas voir l'Indien.
Oui, mais à ces endroits-là, c'est adapté pour les gens, les automobilistes puis les camionneurs qui doivent arrêter.
C'est effrayant. C'est des bécosses, là. C'est des bécosses. C'est des boîtes de bois que c'est comme autrefois, là, dans les années 40.
Ici, au Québec, c'est
il y a même pas d'eau là-dedans pour te laver les mains. Non. Tellement quand tu t'en vas vers Vancouver, là, c'est terrible.
Puis quel message qu'on lance aux touristes quand ils viennent ici puis qu'ils regardent les cabanons du Québec?
Ouais.
C'est correct, là, on veut faire des haltes routières un peu plus modernes. Là. Villeroy est en train d'en construire une là, actuellement. Mais ça reste que c'est pas un on-route, là. On est loin encore du on-route. On n'a sûrement pas pensé encore aux camionneurs qui doivent prendre une douche à un moment donné. Il faut que tu te laves dans la vie, là. On n'a sûrement pas pensé encore à ça. On va te mettre du fast-food, c'est correct, pour un dépanneur, une station de service, puis tout ça. Mais entre vous et moi, là, l'industrie du camionnage n'est pas choyée au Québec autant que dans certains États ou certaines provinces. La côte est américaine aussi, on n'est pas très choyée, là. Mais si on s'en va tout ce qui est Midwest et tout ça, là, tu sais, on pense au camionnage. Puis il y a des autoroutes qui font d'est en ouest aux États-Unis où à peu près à tous les temps de mille, il y a toujours un bon truck stop. Peut s'ostiner sa qualité de la bouffe, là, mais au moins tu peux prendre une douche, te ravitailler, puis prendre 5 minutes, puis relaxer.
On peut-tu faire plaisir aux gars de l'Ontario un peu à soi? Une route en Ontario, ça prenait un an de bien construire. Mm. À Villeroy, là, ça va faire 3 ans. Je ne sais pas s'ils vont le rouvrir cette année.
Ah non, les on-route en Ontario, on est vraiment gâtés quand on.
Puis on a de quoi de beau en Ontario. Ouais.
Quelqu'un qui vous demande la formation en 1970 pour ce qui est des camionneurs versus aujourd'hui, ça ressemblait à quoi?
Ben, regarde, moi, j'ai eu mon permis de chauffeur. Quand j'ai été acheté mon permis de chauffeur, on avait nos permis à 21 ans. Puis j'ai été passé à Victoriaville. Mon permis a été écrit sur au studio, au crayon de plomb.
Ouais. Allez pas trop vite, parce que moi, je suis pas vite, OK? Ouais. En 1970, vous aviez votre permis d'automobiliste?
Oui, non, même pas. On avait fallu avoir 21 ans pour avoir nos permis pour conduire.
En 70?
Ben, regarde, enlève 76 moins 50.
76 moins 50, on est rendu à 36.
Des années... Quand j'ai eu 21 ans, je suis né en 44. À 21 ans, ça m'a mené à...
Ben, 44 à 64, c'est 20.
Oui, bon.
65.
En 65.
Oui, il y en a un. Il y en a un permis.
C'est à son père, à lui, ça.
OK. Donc, vous aviez votre permis d'automobiliste à 20
ans? Non, j'avais même pas de permis d'automobiliste, je n'avais pas de permis.
Donc, vous avez fait de votre demande de permis à 21 ans?
Je conduisais une van, ça faisait 4 ans que je conduisais une van. J'arrivais à Victoriaville, j'ai dit, je m'en viens acheter un permis. J'ai 21 ans le matin, ça me prend un permis.
Fait qu'on repart du début, vous avez conduit pendant 4 ans sans permis.
Ouais, ils m'ont donné un permis, ça m'a coûté 7 piastres pour avoir mon permis de chauffeur.
Ouais.
Puis, elle m'a fait un papier écrit au crayon de plomb, puis j'ai pas de ça avec ça.
Puis vous aviez pas de test?
Absolument rien. Tout ce qui a passé, c'est un test de vue, là, sur le mur. Là.
OK.
C'est tout ce que c'est qu'on a passé.
Wow.
Ben, je peux pas vous envoyer quelqu'un avec vous. Elle dit, vous allez vous montrer comment chauffer une vanne. Elle dit, j'ai pas personne. C'est pas... La madame, elle dit, j'ai pas personne qui conduit des vannes. Elle dit, okay. Vous allez trouver de vous montrer. Elle dit, allez-vous en demain.
Puis aujourd'hui, trouvez-vous que c'est bien qu'il y ait de la formation pour les nouveaux camionneurs?
C'est bien, oui. C'est bien parce que...
Ça... Ou c'est trop compliqué, peut-être?
Ça a trop changé d'un coup sec.
Oui.
Ça a trop changé d'un coup sec. Mais regarde, c'est rendu lourd. C'est les normes. Puis tu peux pas passer aux côtés des normes.
Anne-Lise vous pose la question. En 1970, quand vous avez commencé, puis vous avez fait des voyages aux États-Unis, est-ce que vous parliez anglais? Puis sinon, est-ce que c'était difficile?
Je peux lui dire que le premier restaurant, j'ai arrêté pour manger. J'ai regardé le gars qu'il y avait aux côtés, puis j'ai fait signe à fait, je voulais avoir.
Same thing.
Elle m'arrivait avec 5 ordres de toast et une soucoupe. Je n'avais pas d'anglais du tout.
Non.
Wow.
Du tout.
Vous avez appris un peu sur le tas.
Yes, Pino and Boat Pintaro. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de trouble. Je fais ce que c'est que je veux. Je peux prendre le téléphone, appeler, j'appelle mes clients.
Puis, ouais.
Je vais à l'aéroport, je commande mes billets, je fais tout aujourd'hui.
Mais c'est spécial, pareil, Ben. Ouais. Tu sais qu'aujourd'hui, ça soit très, très, très sévère. Puis M. Terrier, en 1970, ça va voir la dame qui est responsable de donner les permis. La
Donne-moi
dame,
un permis.
La dame, il fait un signe de la main. Me voyez-vous? Monsieur Terrier dit oui. Ah, ben, vous avez une bonne vue. Voilà.
C'est correct. C'est
le même permis.
C'est le même que ça marche. Écoute.
Aujourd'hui, tu peux plus avoir ça, là. Puis, je pense que c'est parce que.
Me
on a...
voyez-vous? M'entendez-vous?
J'ai fait faire un levé il n'y a pas longtemps, là, une couple d'années, 2-3 ans, par une compagnie d'assurance. Tu vois, j'aurais à peu près. Eux autres, ils me donnaient un adverse de 10 millions de 1 000 de virés dans ma vie.
Vous avez fait 10 millions de 1 000
De 1 000 de virés.
Ben, en kilomètres, compte-moi donc ça.
Hein?
16 millions de kilomètres.
Hmm.
10, ça fait 16. Me semble, à peu près. Là.
T'es bon.
Ah, à peu près.
Puis, pas gros de responsable là-dessus. Pas d'accident responsable là-dessus.
Ouais. En 1970, là, les gens étaient wild. Là. Voyez-vous des affaires? Hein? En tant que camionneur, les automobilistes sont un peu plus bas. Est-ce que vous voyez des affaires? Ah oui?
Oh.
Il y avait ça?
Des solos, oui.
Des solos?
Ah, ça, c'était un peu ça, moins, on voyait ça avant.
C'est un peu moins intéressant pour un camionneur hétérosexuel.
Ou bien, ben, le char arrive aux côtés de nous autres, était prêt à faire l'amour avec quelqu'un sur le siège d'en arrière.
Ah, ben déjà,
la lumière est allumée. Ça, on a vu bien des affaires. Hein, écoute,
Des Winnebago avec la vitre ouverte en arrière.
En arrière?
Un moon.
ça vous dérange pas dans ce temps-là? Non. Hein, le bagot est proche. Là,
écoute, ça a l'air qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien.
C'est ça. Fait que ça existait les années 70.
Ah oui, ah oui.
Est-ce qu'il y a des fois des filles qui faisaient par exprès pour vous montrer?
Ah oui, ah, oui, souvent. Ça
arrive ça encore en 2020?
On l'envoie. Ouais, ben,
on envoie de temps en temps.
Il y en a qui envoient à tous les voyages, là, mais moi, j'en ai jamais vu à tous les voyages.
Ton père envoie de temps en temps, c'est pour dire qu'il est plus beau que toi.
Mais c'est parce que je roule pas dans les mêmes boîtes que lui, probablement.
Ouais, mais lui, à nuit, il se couche. Moi, ben, des fois, je roule tard le soir.
Ouais, c'est ça.
On a des spécimens rares, des fois, sur la route.
Ouais, nous autres, on a une qui nous appelle à chacun des passages de camionneurs en onde.
Une croqueuse de camionneurs.
D'après moi, c'est elle que monsieur ton père voit. Là.
Raphaël, tu l'as vu, toi? Hein?
Oui, je l'ai vu deux fois. Une fois en Normandin et une fois en studio. Ben oui, en fait, c'est une belle femme. Écoute, quand je lui ai parlé, elle avait 36, elle doit avoir 37. Je te dirais peut-être un 5 et 7.
On parle bien de Roxane.
Oui, on parle de Roxane, oui. Elle est pas mince, elle est pas corpulente, elle est belle. Là. C'est une belle femme. Oui, oui.
Ben, en tout cas...
On veut savoir ses attributs.
Oui, oui. Ben,
tout est là.
Écoute, t'as peu. Si je compare au mien, mettons, elle doit avoir une pointe de plus, fait qu'elle doit avoir peut-être du 38D.
OK.
Es-tu comme une église, les saints parents dedans?
Je suis pas allé jusque-là, je l'ai pas enlevé, ça. Non, non. Je l'ai pas enlevé.
Il est wild de votre père, ça. La blonde, hein? Avez-vous des recommandations, monsieur Terrien, pour les gens qui aimeraient embarquer dans l'industrie du
camion? C'est un super de beau métier. Ouais. Moi, recommencer, je pense que je referais le même métier. C'est un super beau métier. C'était débrouillard.
Ouais. Du US, du local?
N'importe. C'était débrouillard. La route t'emmène à Paris, puis de Paris, tu reviens chez vous. Il n'y a pas de problème.
Simplement.
Qu'est-ce qu'on remarque, nous autres, où est-ce que je travaille, les jeunes qui commencent dans le transport, c'est qu'ils sont pas partis, puis il faudrait qu'ils soient venus, parce que, je dis pas la majorité, mais une grosse partie, c'est que les activités, c'est plus important que le travail.
Le social.
C'est à cause des salaires.
Ouais, parce que j'ai plus l'impression que c'est un conflit générationnel. Tu sais, les opportunités, eux, qui ont aujourd'hui, on les avait pas dans le temps parce que, moi, je me souviens, là, ma première job chez Ronald McDonald, là, ma mère m'a dit, trouve-toi quelqu'un qui peut donner ton nom, puis c'est lui qui va te recommander. Et là, c'était compliqué. Va donner ton nom chez McDo, puis là, je souhaitais donc bien qu'il me rappelle, tu sais. Mm-hmm. Aujourd'hui, là, il y a de la job partout. Mm-hmm. Fait que c'est comme si eux autres, ils considéraient qu'une job, c'est pas... Vous l'avez dit tantôt, M. Terrien, là. Vous êtes, dans votre temps, dans le temps de votre père, il y avait à rien. Fallait prendre ce qui passait. Eux autres, aujourd'hui, ils ont énormément de choix, mm-hmm. puis ils vont faire passer l'anniversaire de leur chum qui est au bout du rang avant leur propre emploi.
Regarde, aujourd'hui, tu vas travailler d'improviso puis tu gagnes 70 millions.
Oui. C'est un UGA.
20 UGA.
Il
va avoir des amis, lui, en tout cas. Hein?
Oh boy.
Mais IGA. Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ont l'embarras du choix.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut leur reprocher? Ben,
non.
C'est un. Eux autres, ils ont choisi de vivre comme ça. Puis si ils sont capables de faire leur paiement, puis qu'ils sont capables de se payer des belles sorties, puis qu'ils sont capables de vivre comme ils le souhaitent. On est qui pour les juger? C'est toujours difficile, ouais. Mais en tant qu'entreprise, c'est difficile aussi de gérer ces gens-là parce que ça prend plus de monde pour faire le même job qu'on faisait avant.
Mm-hmm. Oui, puis mais je pense que les entreprises de plus en plus, puis tu nous en as amené des entrepreneurs là qui sont responsables d'énormément de camions. Puis eux autres, là, oui, bon, ils ont des employés, mais ils s'arrangent pour les conserver, leurs employés, leur font attention. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que si jamais un employé fait une coche mal taillée, puis il risque de perdre sa job, il jase avec ses chums. Hey, si je vais travailler pour lui, là, c'est-tu correct? Oui, mais l'entreprise pour laquelle tu travailles, là, ils donnent un bon salaire, sont bons avec leurs camionneurs. T'sais, de plus en plus, il y a ce type d'entreprise. Là, qui se force énormément. Tu sais, puis je fais un parallèle avec la station ici. Quand il y a des employés qui décident de partir parce qu'ils ont peut-être un meilleur salaire ailleurs, des fois, après deux semaines, ils nous réécrivent. Mm-hmm. Puis ils nous disent «
C'était peut-être pas ce que je pensais. »
Quelle décision que je viens de prendre là? Parce que ici, ils ont mis quelque chose en place qui fait en sorte qu'on a une entière liberté. Mm-hmm. Sont là, bien entendu, c'est nos patrons. Pis si jamais on fait des coches mal taillées, ils vont nous en parler. Mm-hmm. On va nous avertir une fois, deux fois, trois fois. Dans mon cas, je dois être rendu à 76. Mais je suis gentil, je suis sympathique. Je me rends compte que ceux qui partent d'ici le regrettent très rapidement. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de roulement d'employés ici maintenant.
Mm-hmm. Le métier de camionneur, c'est un métier qui est très dur.
Oui.
Il est très dur. Faut que tu te mettes dans la tête que tu pars de chez vous, tu manges dans ton camion, tu rencontres n'importe quel monde, tu sais pas ce qui va t'arriver sur la route. Il y a tellement, tellement de choses à faire, là. C'est un métier qui est très dur.
Les boys,
tu l'as ou bien tu l'as pas.
La pire ville ou le pire pays pour faire du camionnage, c'est quoi?
Moi, dans mon temps, c'est Philadelphie.
Philadelphie?
État de New York.
Pourquoi c'est Philadelphie?
Philadelphie, moi, j'ai pogné une adresse dans le temps. J'étais en snap dans ce temps-là. Puis, on savait jamais. C'était jamais c'était street, road ou avenue. On le savait jamais. Il fallait quasiment décider. On checkait dans la map. Bon, je vais prendre street. J'arrivais là. Tabarnak. Où est-ce que j'arrivais là? J'avais pas d'affaires là. Pas pantoute, là. Le feu d'un conteneur, d'un 205 litres, mettons. Okay. Puis, t'arrivais dans une ruelle avec la dry box, puis ils te regardent de tout.
Fait que c'est des coins plus dangereux.
J'ai jamais aimé
mais
aller
mais
là.
Des villes qui sont pas nécessairement adaptées, là. Tu sais, je sais qu'à Montréal, dans un certain secteur, aller faire de la livraison, c'est presque impossible parce qu'il y a des one-way partout. Mm. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'y perds la tête.
Il y a Gary Indiana aussi. Gary Indiana, quand tu dis que tu vas au McDonald's, puis c'est comme en prison, là, ils ont des barreaux après les fenêtres. Là. On entendait des coups de feu dans la nuit.
Là, à Québec, présentement, ce qu'on est en train de jaser, c'est le fameux tramway. J'imagine que vous n'en avez entendu parler, mais ça va être un lien qui va être dédié, ce qui fait en sorte que si vous êtes sur René Lévesque, vous, en tant que camionneur, ben si vous voulez tourner à gauche, vous ne pourrez pas tourner à gauche. Vous allez devoir retourner à droite, retourner à droite.
Je vais faire de la livraison d'huile des fois à Toronto, puis il y a des tramways, puis je l'ai fait arrêter le tramway quand j'avais d'affaires à reculer d'une rue.
Sauf que dans ton cas à toi, à Toronto, le tramway, il est à même la route. Là, nous, ça va être un lien qui va être dédié avec des rails surélevés, ce qui fait en sorte que pour les camionneurs, pour les automobilistes, vous ne pourrez pas tout de suite tourner à gauche. Vous allez devoir tourner à droite une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour ensuite aller chercher le petit bump qui va vous permettre de passer par de
ça. Pour 8 personnes qui veulent faire d'un point A à point B.
Ça va être beau que le calcium, puis les lames de neige, puis les viseurs, puis tout.
Ça risque d'être spécial, mais dans ce cas-ci, j'ai pas l'impression qu'ils prennent en considération les livreurs, les camionneurs.
J'avais un client de meubles dans Manhattan.
Ouais.
Deux rues plus loin que le Madison Square Garden. Puis tu vas pas rester parqué stationné dans la rue parce que je livrais des meubles d'enfants. Fait que quand il y avait un camionneur qui était déjà là, ben il fallait faire un tour. Il y avait un conroy, là, puis on faisait le tour jusqu'à temps que la place est libre. Quand la place est libre, t'installes mon tour.
Fait que vous deviez rester en mouvement constamment.
Tout le temps. Sans ça, si t'arrêtais, t'avais flic dans le derrière, c'est pas long.
C'est rien pour faciliter votre job. Y a-t-il déjà des gens qui ont vidé vos boîtes en arrière pendant que vous dormiez?
Moi, j'ai eu connaissance que les portes qui ont été ouvertes. Le ciel y avait été pété dans un restario, mais il manquait rien. Mais c'était toutes des grosses boîtes de meubles, fait que c'était pas évident. Là.
C'est-tu un tracas pour vous autres pendant la nuit, ça, de surveiller votre stock?
C'est-tu un tracas? S'il faut s'arrêter à ça, on va dormir dans le trailer en arrière.
Oui, c'est ça.
Ben, des fois, on va se reculer avec un autre van. On s'accote quasiment ensemble. Là. Fait que,
pour être sûr qu'il ouvre pas les portes.
Les portes s'ouvrent pas.
Ouais, les truck stops sont faits de même. Hein.
Steve dit, est-ce que l'époque des camionneurs qui se promènent avec des bâtons de baseball dans le camion est révolue?
Des tares belées.
Des quoi?
On appelait ça des tares belées. C'était des petits battes de baseball, ça. Ouais. C'était pour vérifier nos tares. À cette heure, tu n'as plus le droit d'amener ça. C'est pire que si t'es armé.
Vous avez plus le droit d'amener
ça? Non.
Moi, ce que j'ai tout le temps traîné à côté de moi, c'était une bouteille de Windex pleine d'acide pur. C'est sûr que le gars qui a embarqué une shot d'acide pur dans la face, c'est sûr qu'il...
Bon, ben on connaît le psychopathe de la famille.
Poil de Cayenne, ça aurait pas été mieux ou ça existait pas dans le temps.
Ah oui, shot d'acide pur. Oui.
C'est pas?
Ben, je veux dire, si la personne est mal intentionnée...
Mais non, c'est clair.
Tu sais, maintenant, faut que tu sauves ta vie.
Il sait c'est quoi d'acide pur, parce qu'il a déjà boosté un truck, puis les batteries ont sauté.
Ah ouais. Ah, c'est ça qu'il y a d'en face. Il veut s'en venger. Les boys, incluant votre père, je vais vous poser la question, M. Terrien. Est-ce que vous choisissez la paye ou le chrome? C'est Ben qui vous pose cette question-là passant, mais il était trop gêné pour vous le demander.
Moi, j'ai jamais été un frotteux de truck.
Non. Fait que vous allez choisir
la paye. J'aime le chrome. J'aime ça quand mon truck est bien équipé, mais je travaille pas pour la paye. Je travaille parce que j'aime mon métier.
Non, il faut répondre à ma question. C'est un ou l'autre. Fait que c'est la paye.
Hein? J'ai jamais travaillé pour une paye. Je me suis engagé à des compagnies et je n'ai jamais demandé quel prix j'étais payé.
Ah, vous êtes un bon employé.
Toujours attendu qu'ils me payent mon premier salaire du 15 jours ou bien de la semaine. Puis si ça ne faisait pas de mon affaire, je rentrais dans le bureau et je disais, regarde.
Puis sinon, ils prenaient la carte de crédit pour la cogneuse de porte dans la nuit.
Oui. Et toi, la paye ou le chrome?
Je suis chanceux, ma compagnie me donne les deux aujourd'hui. J'ai eu le chrome après mon camion.
Vous répondez même pas à mes questions, vous autres. Si ça avait été dans le temps, en 1980, là, la paye ou le chrome?
Avec la famille, c'est sûr que c'est la paye.
C'est la paye?
Ouais.
Le chrome n'emmène pas à manger.
Non.
Mais il y a une chose que je peux te dire, les amateurs d'Inter. Chromer un Inter, c'est comme si tu maquillerais un cochon.
Ma patte.
Puis toi?
Moi, j'ai mon propre camion, fait que y a pas beaucoup de chrome dessus. Je travaille pour la paye, puis.
Travaille pour la paye.
Il y en a
au moins un dans la famille qui est honnête là.
Ben, en tout cas, regarde, on essaye de faire quelque chose avec ça. Moi, ça fait seulement 6 mois que j'ai acheté mon camion, puis.
T'es rendu broker, t'as ton entreprise.
Ouais, ouais, ouais. Puis,
t'es le riche de la famille maintenant.
Ben, non, je suis pas le riche, là, mais.
Il y a souper à soir en plus.
C'est vrai? Il y a mis ça, c'est la compagnie.
J'ai rencontré des clients.
André Therrien, Serge Therrien, Yvan Therrien, Martin Therrien, merci beaucoup d'être passé. Puis on salue Michel Therrien, qui est malheureusement pas là, qui travaille dans les mines du Grand Nord.
C'est ça.
Qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être passé. Puis Ben, pour les gens qui sont passionnés de camionnage, qui veulent entendre parler de camionnage ou qui cherchent des emplois, ils font quoi pour vous rejoindre chez Truck Stop Québec?
TruckStopQuébec.com ou directement à la page de Truck Stop Québec. Puis à chaque fois que je passe ici, là, j'ai des tonnes de questions à répondre demain. Il y a plein de gens qui se demandent. Oui, ben ils se demandent comment je peux devenir camionneur, comment, quelle formation je dois suivre, où je dois aller, où je commence. Puis j'ai souvent des gens qui vont dire, est-ce que cette compagnie-là est bonne? Celle-là est-tu bonne? En fait, travaillez pour qui vous voulez, mais choisissez la meilleure entreprise pour vous, puis comment que je vous dirais qu'elle est la meilleure, elle sera peut-être pas meilleure pour vous. Fait que c'est souvent ça que je réponds.
Merci beaucoup.
Merci.
Salut Ben.
Marceau, le soir.
Radio. Wow. X.